Kyoko Takenaka, une comédienne japonaise qui n'a rien d'évaporé.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Kyoko Takenaka vient de là où naît le soleil, traduction du mot Japon. Alors je ne sais pas ce que ça fait moi de naître sur une île au milieu de l'océan Pacifique, mais le hic du Pacifique, c'est qu'il ne l'est pas tant que ça. Les guerres barbotent ici et là, et même on entend d'ici les petites guerres internes au Japon lui-même. Notre invitée, la comédienne Kyoko Takenaka, nous arrive chargée d'un phénomène appelé les évaporés et qui donne son titre à une pièce dans laquelle elle joue, pièce de Delphine Eké, actuellement au Théâtre de la Tempête à Paris. Phénomène énigmatique pour un occidental qui voit chaque année 180 000 Japonais disparaître volontairement, ne pouvant assumer aux yeux de la société un échec professionnel ou familial. Kyoko Nippon, installée à Paname et dans le théâtre français, se promène désormais en se regardant être regardée. Moshi Moshi et bonjour Kyoko Takenaka.
Bonjour.
Est-ce que vous avez l'impression comme ça d'être regardée en France ?
Être regardée en France, bah, sur scène, oui. Notamment quand je joue en ce moment un rôle de japonais, j'ai vraiment l'impression que je porte deux costumes. C'est première, c'est la peau qui fait la peau asiatique, la peau japonaise. Et deuxièmement, c'est le costume normal de personnage. Parfois, je me sens un peu animal.
Vous vous sentez animal ?
Oui. Quand je joue surtout le personnage japonais, on voit de l'intérêt de voir aussi une japonaise. Il y a une partie totalement documentaire.
Il y a un petit peu un regard exotique apparemment.
Oui.
Alors comment on devient une comédienne japonaise qui se retrouve à jouer en France ? Ça, c'est ce que vous allez nous raconter en sol majeur, en commençant par sauter dans le train nippon.
B comme boulot, métro, dodo.
Et voilà deux sons qui peuvent peut-être vous reconnecter à votre enfance, Kyoko. Le son d'un manga et le son du train.
Oui. Donc le train, on entendait la petite musique avec la voix qui dit que ça va bientôt arriver, le train qui va arriver au quai 1, au quai 2 et tout ça.
Et pourquoi c'est important pour vous ?
Parce qu'en fait, quand ma mère elle travaille tous les jours, moi j'ai grandi avec mes grands-parents. Et donc j'attendais toujours le retour de ma mère qui rentre de son travail assez tard. Comme je pleurais et ma grand-mère qui me ramène à la gare. C'est le temps dont on n'avait pas des smartphones et donc on ne savait pas quel train que ma mère elle est dedans. Mm-hmm. Voilà, donc c'est pour ça que c'est la musique qui me ramène toujours mon enfance. Et en plus, c'est la musique que j'ai choisie, c'est la musique de la station où j'habitais.
Parce que chaque station a une
différentes musiques. Ouais.
Et le manga ?
C'est pas vraiment manga, c'est le film d'animation de Hayao Miyazaki qui s'appelle Mimi Osumaseba, Le temps des oreilles, je crois, c'est en français. C'est le film que j'ai vu pendant très longtemps, plusieurs fois quand j'étais petite, parce qu'il y a un petit passage, un garçon qui demande une fille de demander un mariage. Cet passage qui était tellement fort de l'image, c'est pas qu'on dit je t'aime, c'est plus j'ai envie de te marier avec toi un jour, c'est la déclaration d'amour.
Et c'est quoi, c'est tellement incroyable?
Oui, c'est parce qu'ils étaient très jeunes. Mm-hmm. C'est les collégiens qui demandent mariage. Mm-hmm. Cette scène, quand on a beaucoup parlé, même un peu on a imité. Mm-hmm. Mm-hmm.
Vous êtes née en 87, Kyoko,
oui.
À Saitama, on dit comme
oui,
ça.
Saitama.
Donc pas très loin de Tokyo, dans une famille qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec le théâtre.
Non. Mes parents sont deux chercheurs, donc c'est pas vraiment la famille artistique.
Chercheur, votre mère, elle a travaillé sur la langue japonaise et votre père sur l'histoire de Chine.
Oui.
Donc, c'était quand même deux intellectuels, vos parents. Ils lisaient, ils allaient au théâtre
Pas beaucoup de théâtre, parce qu'au Japon, quand même, le théâtre qui est beaucoup considéré autant que divertissement, c'est pas de réfléchir quelque chose, de l'espace de la pensée, c'était pas ça.
Un loisir.
Oui.
En tout cas, ce goût du théâtre, il commence pour vous avec le metteur en scène Yukio Ninagawa. C'est un grand, hein. Il a été reconnu pour ses adaptations du théâtre européen. Il a monté Hugo, Beckett, Tchekhov et puis surtout Shakespeare.
Oui.
Ça lui a valu d'ailleurs d'être nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Hein. Ça, c'était en 2002. Et Shakespeare par Ninagawa, voilà ce que ça donne dans Roméo et Juliette. C'est la scène du balcon.
ここに夜に聞く恋人の声は銀の鈴のように甘い。ああ、ロミオ。なんだ。明日何時かよ。9時。え、きっと。それまで20年もあるみたい。なんであなたを呼び戻したのかしら。忘れてしまった。思い出すまでここにいよ。いつまでもそこにいてほしいから。どんなにあなたと一緒にいたいか。それだけは思いながら。いつまでもここにいよ。いつまでも忘れていてもらうために。ここ以外に家があることなど忘れたままで。<笑>
Hein, ça se laisse écouter, hein, la scène du balcon pour en sol majeur, version du balcon japonais. Shakespearien, voilà, version nippone avec ce grand metteur en scène Yukio Ninagawa. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là, Kyoko Takenaka, quand vous découvrez ce théâtre-là?
Je pense que pour moi, c'est une première grande expérience de théâtre. Il y a des pulsions que j'ai senties. Que j'ai jamais senti, je pleure, mais je sais pas pourquoi, c'était pas que je triste, que je pleure, c'est juste, il y a des tremblements qui me fait dans mon corps, je pleure sans raison. Donc c'était un.
Bah sans raison, attendez, non, il y a quand même des raisons de pleurer quand on voit que Roméo et Juliette peuvent se rater.
Oui, mais c'était pas par sentiment, c'était pas la scène. Par exemple, je me rappelle très très bien, j'ai vu As You Like It, Shakespeare, c'était une comédie totale, c'était tellement drôle. Et j'ai senti peut-être que le spectacle va terminer dans 2 heures. Et j'étais tellement triste de savoir que dans 2 heures, il faut que je parte de théâtre.
Mais il faut nous expliquer pourquoi. On est très loin du kabuki. Vous pouvez nous redire rapidement ce que c'est, ou du théâtre No. Qu'est-ce qui se passe là quand vous avez sur un plateau l'expression des sentiments tels qu'ils sont exprimés chez Shakespeare? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est très très loin de ce qui se fait en général dans le théâtre japonais et qui vous bouleverse à ce point?
Bah, par exemple, pour nous, notre génération, je sais pas si c'est juste pour notre génération, en tout cas, quand on entend un kabuki ou No, on comprend pas ce qu'il dit parce que il utilise les langages japonaises mais très très anciens. Donc si moi j'ai pas des sous-titrages, je sais pas quoi, si je connais pas de l'histoire du kabuki, en fait je comprends quasiment pas mais ce que ça raconte en fait.
Alors qu'avec Shakespeare,
après je pense que c'est pas vraiment le langage qui m'a fait bouleverser, c'est plus des passions de ce qui se passe sur le plateau, comme le fait qu'on est très très proche et on partage le même espace avec plein d'enthousiasme, même dans la salle et aussi sur le plateau. Tout simplement, ça m'a troublée. Je pense que.
Donc, c'est le partage collectif d'émotions qui vous a bouleversée. Kyoko, vous allez sortir diplômée de l'université Obirin, c'est comme ça qu'on prononce, non? Dans la section Performing et Arts Visuels, c'était à Tokyo en 2011, puis vous allez jouer régulièrement des textes d'auteurs japonais, ou pas d'ailleurs, puisque vous avez joué Agota Christophe. Et puis en 2017, vous jouez sous la direction d'Orisa Hirata, c'est un auteur-metteur en scène qui a un théâtre très contemporain, parce qu'il inscrit son théâtre très loin des grandes problématiques de la tragédie. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le quotidien. Le quotidien, avec ses chagrins, avec ses joies. Et ça se retrouve techniquement sur son plateau, puisque souvent les phrases dites par les comédiens peuvent être presque murmurées, elles sont à peine audibles. Plusieurs conversations peuvent avoir lieu en même temps, et parfois aussi les comédiens tournent le dos au public. Quel était l'enjeu du seul en scène que vous avez joué à Tokyo, qui s'appelle « La question de la fée » de Satoko Ishihara?
On a commencé à raconter c'est quoi la minorité aujourd'hui, c'est quoi la place de la minorité. Par exemple, au début, on va raconter par les personnes âgées. Et au Japon, aujourd'hui, c'est des grands problèmes sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées et ça manque des gens qui s'occupent d'eux. Donc, ils ont des places totalement minoritaires et on voulait raconter ça. Et petit à petit, on commence à chercher aussi des handicapés. Ça ramène aussi des bactéries.
Des bactéries ?
Bactéries. Et aussi le visage, l'aide. Et donc, ça consiste de trois parties différentes. La première partie, c'est un dialogue entre les deux moches qui raconte « Nous, on est très moches, donc on est exclus de la société, on n'est pas comme les normaux. » Et après, deuxième partie, c'est la chanson de Cafard pendant 30 minutes. Et après, troisième partie, en fait, une femme qui a commencé à faire des conférences en utilisant des bactéries du sexe féminin pour faire des yaourts.
Pour faire du yaourt ?
Ouais.
C'est beaucoup d'audace hein, dans le théâtre contemporain japonais.
Je pense qu'elle, elle est notamment très provocative, ce qu'elle fait en ce moment. Voilà.
Ouais. Quelle approche vous avez du théâtre, vous, Kyoko ? Est-ce que vous êtes dans, vous diriez, le travestissement ou dans l'incarnation ? Vous jouez à être ou vous êtes sur scène ?
Je suis. Parce que dès que j'essaie d'incarner quelque chose, ça commence à vraiment à me gêner. Parce que je me sens très nulle de devenir une autre personne. Par exemple, de changer la voix, d'imiter d'autres choses, changer la manière de marcher, tout ça, tout ça. Donc, quand je trouve que j'essaie d'être moi-même sur scène, mais en utilisant toute la dramaturgie par le texte, c'est là où je suis à l'aise, je pense.
Donc vous restez Kyoko Takenaka, voire plus si affinité avec le théâtre.
Option.
On a un peu de rap nippon sur le pick-up dans le sol majeur, Kyoko, avec un nom de rappeur qui me laisse songeuse. Vous allez m'aider.
Fukashigi Wandabue.
Ce qui veut dire
Fukashigi, ça veut dire mystérieux.
Donc il est Superman et mystérieux. Et il a fini tragiquement, ce rappeur japonais.
Il est mort à l'âge de 24 ans, à l'accident de voiture. On ne sait pas si c'est la suicide ou pas. En tout cas, c'est les rappeurs qui racontent la difficulté de vivre dans la société aujourd'hui, depuis sa jeunesse.
できた気になるかなってこの話前にも も聞いた気がするわ、すまんね。とりあえず今んとこは彼女とかもいないし、全くお金もないから可能性はゼロだね。そういえばお前んとこの彼女どうしてんの？たまに俺に貸してよって、これも前に言ったか。冗談はいいとして、同窓会どうする？行かないよな、行ったって話すこともないしな。大体どんな顔して行きゃいいって言うんだよ。自慢できることなんて一つだってないのに、あの頃って何にでもなれる気がしてたよな。いや実際頑張れば何にでもなれたか。でもこうやっていろんなことが終わってくんだもんなって。いや始まってすらいないか。そうやって俺たちはいつまでも待ってた。来たるべき何かが来ると信じ待ってた。グラスの中の氷はとっくに溶けてなくなって、俺たち以外にもう人は誰もいなくなってた。だから今日はありもしたい未来について語ろう。今日だけ、今日だけは思い描いて語ろう。こういうのってあんまりかっこよくはないけど、大丈夫、俺たちのことなんて誰も見ちゃいないよ。待ってた、俺たちはいつまでも待ってた。気はしないと分かってながらいつまでも待ってた。俺たちの知る限り時間ってやつは止まったり戻ったりはしない。ただ前に進むだけだから、今日は戻らない日々を思い出して笑おう。今日だけ、今日だけは思い出して笑おう。こういうのってあんまりかっこよくはないけど、初めから俺たちはかっこよくなんてないしな。
Ça pulse en sol majeur avec un rappeur made in Japan, Arigato, Kyoko Takenaka pour ce Fukashigi Wonderboy qui rappe donc sur le bon vieux temps. Notre invitée venue du soleil levant est une comédienne qui joue sur les plateaux de théâtre japonais et français, d'où Jésus. De RFI qui n'aurait jamais entendu parler de ce phénomène, dites-nous Kyoko, ce qu'on appelle les évaporés au Japon.
Cet phénomène, beaucoup plus dans les années 90, il y a beaucoup de gens qui sont disparus à cause de la honte, déshonorée de son travail. Au Japon, quand une fois qu'on a des statuts sociaux, si on perd, égale mort, c'est la fin de sa vie.
C'est le déshonneur.
Déshonneur.
Vous savez pourquoi ça ne concerne finalement que les années 90, et fort heureusement d'ailleurs, mais vous, votre génération, vous êtes trentenaire, ne connaît pas ce phénomène des évaporés. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 pour que ça existe, ça?
Je pense que même aujourd'hui, ça existe toujours, mais les gens qui racontent plus, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, je considérais c'est comme un phénomène passé, mais en fait, pas du tout.
Donc est-ce que vous savez si dans votre propre famille à vous, Kyoko, il y a eu des évaporés?
Non, non.
Ça ne se dit pas, c'est-à-dire que c'est même un tabou de le dire. On ne peut pas dire il y a tonton machin qui n'est plus là, voilà, parce qu'il a perdu son boulot.
En tout cas, j'ai aucune personne qui va évaporer dans ma famille.
Oui. Ce qui est très étonnant, c'est que les familles ne font jamais de recherche. Elles ne recherchent jamais leurs disparus.
Ça, si, si.
Si, ça existe. Mmh. Et alors, est-ce que c'est possible de réapparaître?
Là, par exemple, il y a aussi dans le spectacle, il y a la scène de policier, la famille au début qui cherche quelqu'un disparu. Mais comme a disparu, qui a décidé de disparaître soi-même, c'est pour ça que la police qui dit que ben, je ne peux pas le droit de chercher.
D'accord. Mais en tout cas, il faut respecter cette volonté de disparition. Ce qui est encore plus étonnant, en tout cas aux yeux des Occidentaux, c'est de pouvoir disparaître des radars administratifs. Comment est-ce qu'on peut s'évaporer dans la nature sans... On a des traces, on a des dossiers, on est fiché aujourd'hui. Mais apparemment, on peut disparaître complètement, faire table rase de sa vie précédente, recommencer ailleurs, dans une autre ville, sous une autre identité. C'est ça que ça veut dire?
Non, souvent c'est sans identité. C'est ça qui est très compliqué. C'est pas qu'on commence une autre vie, c'est plus on jette une identité. Là par exemple, il y a les évaporés travaillent autour de Fukushima, le déchet à activité.
C'est un travail qui est déshonorant, de travailler sur la radioactivité.
Parce que c'est très dangereux.
Oui.
Ce genre de travail dangereux qui ne demande pas leur identité. On ne sait pas la vérité. C'est juste, on entend souvent parler comme ça.
Alors ce phénomène des évaporés, il a inspiré la dramaturge et metteuse en scène Delphine Ecquet, qui était terrifiée d'ailleurs par ce phénomène au début. Et puis elle a eu immédiatement des images en tête, images d'une foule qui agite la ville, images d'une masse comme ça de solitude allant au travail, avec parmi ces images des hommes, des femmes qui rentrent pas forcément le soir chez eux. Elle a imaginé le visage en gros plan d'un homme qui pleure. Elle a imaginé aussi des lettres, les lettres de ceux qui partent et qui ne reviendront pas. Et puis elle a fait appel donc à des comédiens japonais qui vivent en France. Mais évidemment, c'est un regard occidental qu'elle pose sur ce phénomène, notamment à travers le personnage du journaliste français, qui va faire le lien entre le Japon et l'Occident, entre nos a priori et la réalité de la culture japonaise. Les évaporés, extrait.
Moshi moshi, Oto-san, watashi, Yoko desu. Mada kaette nai no? Ano, rusuden irete kara mou 3 ni naru kedo, kiite kureta?
Je m'étais approché de vous. Vos visages, étrangers et nouveaux, mystérieusement anonymes, restaient silencieux. Parmi vous, il y avait des disparus. Il y avait aussi ceux qui étaient restés, attendant un signe, une vérité, un retour possible. Je suis journaliste. Je fais un reportage sur le phénomène des évaporations, vous avais-je dit, sans imaginer que je rouvrais alors une grande blessure. Un pan entier de votre vie.
Sur une musique de Peter Gabriel avec un texte joué en français et surtitré pour les parties japonaises, un extrait en sol majeur sur RFI de ce spectacle dans lequel vous jouez, Kyoko Takenaka, Les Évaporés. Comment on dit évaporé d'ailleurs en japonais ?
Joratsu.
Et ça veut dire quoi si on le traduit vraiment ?
Joratsu, c'est vraiment évaporation.
Comme l'eau qui s'évapore ?
Oui, exactement.
Et quel personnage vous jouez, vous, dans cette pièce ?
Je joue le Sakura, c'est une fille qui s'est évaporée l'âge de 18 ans à peu près. Et après, il disparaît 9 ans. Et là, c'est une fille qui a décidé de revenir, revoir sa mère.
Mais alors, pour quelle raison elle disparaît ?
Elle raconte qu'elle était très mauvaise élève à l'école. Et petit à petit, elle ne peut plus y aller à l'école. Mais elle ne peut pas raconter à sa mère parce que sa mère, elle travaille toujours au bar, la nuit, elle n'était quasiment jamais à la maison. Elle a des conflits avec sa mère depuis très très petit. Elle a dit que c'est pour ça qu'elle est disparue.
こんなさびれた通りの外れにある安っぽいキャバレーでいやらしい目で見てくるおじさんたちの前で歌うなんて尊敬しちゃうよお母さん。こういうのなんて言うんだっけ？特別？特別だねお母さんって。私いつも全部やってきた。お母さんに言われたことは全部。でもお母さんには足りなかった。でもね、お母さん知ってるでしょ？私はごく普通の人間で、お母さん普通の人間なんて全然興味がなくて。でも私は特別な人間なんかじゃなかった。お母さんの言葉一つ一つが私を傷つけた。だってお母さん変わりっこないんだもん。
Merci Kyoko Takenaka pour cet extrait en sol majeur des Évaporés. Qu'est-ce qui se passe sur scène quand vous dites ce monologue ?
Bah, je joue à ce texte en criant parce que c'est la scène de dispute avec sa mère. Elle essaie de revoir sa mère pour un peu s'excuser de son absence un peu éternelle, mais elle l'écoute pas et donc finalement elle explose en pleurant. Ma mère, toi tu comprends pas, tu changes jamais. Pourquoi t'as eu un enfant ? Il faut pas que tu aies un enfant parce que t'as pas de capacité de faire grandir.
Quel effet cette pièce a sur vous, Kyoko, pour vous, comédienne japonaise, jouant comme ça sur un phénomène nippon que vous découvrez d'ailleurs, mais un phénomène regardé par les Occidentaux, donc cette question de l'échec, l'échec allant jusqu'à toucher des enfants. L'échec est impossible au Japon, même pour les enfants. Quel effet ça a sur vous, cette pièce ?
Moi, je pense que j'ai pas suffisamment, je me sens pas suffisamment réussie, et aussi je cherche pas vraiment la réussite. Donc, je pense que j'ai pas peur de perdre parce que j'ai presque rien.
Mais est-ce que cette conception de vie vous semble normale ou pas ?
Mais je pense qu'on a vraiment beaucoup des tendances de penser le futur et des économies d'argent, aussi avoir la maison pour l'avenir. Faire des enfants un peu pour l'avenir, c'est toujours, on a beaucoup des tendances, d'abord penser à l'avenir qu'à présent.
Alors vous êtes dans le présent ou dans l'avenir ?
C'est vrai que comme je vis en France et au Japon, quand je suis en France, c'est la société qui me fait toujours un peu penser à présent. Et dès que je retourne au Japon, j'ai tendance à penser à le futur, c'est marrant.
Quand vous arrivez en France en 2011, Kyoko, je crois que vous ne parlez pas un mot de français à ce moment-là.
Oui.
C'est remarquable hein, la manière dont vous parlez, mais justement on va y revenir. Mais parler français, c'est une chose, mais jouer en français sur des scènes de théâtre françaises, ça c'est une autre paire de manches. Vous dites que c'est en voyant « J'ai tué ma mère » de Xavier Dolan que vous avez eu un déclic. Dolan, on le sait, hein, c'est le toujours jeune prodige du cinéma québécois. Question accent, ça donne ça.
Je pense que je suis faite pour pas avoir de mère.
Peut-être que ta mère est faite pour pas avoir de fils.
J'imagine que, aux yeux des gens, haïr sa mère, c'est un péché. Ils sont hypocrites quand même. Eux aussi, ils ont haï leur mère, c'est sûr. Ça a peut-être duré une seconde, ça a peut-être duré un an. Peut-être que ça dure plus, peut-être que ça a été oublié. Mais ils l'ont quand même fait.
Tu intègres un pensionnat dans une semaine. T'as besoin d'être encadré, Hubert. Puis d'ailleurs, t'as...
Ma mère est plus capable de me supporter, c'est ça ?
Hubert, c'est pas ça.
C'est quoi d'abord ? J'ai tué la remorque, moi, de la presse ! Je t'ai...
Madame, est-ce que je pourrais prendre le métier de ma tante ?
Tu peux pas prendre le métier d'un de tes parents ?
Je vois jamais mon père. Et... ma mère est morte.
Kyoko Takenaka pour En sol majeur sur RFI. Alors, il paraît que vous avez vécu une véritable révolution linguistique à partir de ce film de Xavier Dolan, vu à Montréal. Expliquez-nous.
Oui, moi j'ai vraiment appris en français au conservatoire de 15e à Paris. Donc, ça me demande toujours la prononciation parfaite. Dans le cours, on a beaucoup joué des textes contemporains et c'était très très compliqué pour moi et de toujours de sentir j'ai mal prononcé, j'arrive pas à faire comprendre le texte. Il y a toujours de soucis avant jouer, de soucis de prononciation. Donc j'arrivais pas trop sortir de... Moi je suis comédienne mais je suis pas dans l'école de la langue. Et là quand je suis partie à Montréal et que j'ai découvert l'accent québécois et aussi ce film et j'entends aussi anglais parlé par les Québécois. C'est dans un festival du théâtre, les gens qui parlent très librement et là-bas c'était vraiment, la langue était utile de se rencontrer des gens, échanger avec l'idée. Personne ne demande de parler parfaitement. Ça m'a vraiment libérée.
Décomplexée.
Oui, je pense décomplexée par rapport à la langue.
Quand vous êtes en France, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de surveillance comme ça, un peu pas autoritaire, mais qui juge comme ça la bonne diction française. Vous êtes toujours sur vos gardes ?
Oui, oui. Bah, peut-être c'est dans le cadre de l'école. D'ailleurs, moi, j'étais seule étrangère, élève étrangère dans la promotion. Donc, parfois, il y a un metteur en scène qui peut pas accepter, qui peut pas comprendre pourquoi tu peux pas parler français et que tu as décidé de venir en France. C'était pas bonne idée. Et on me dit, bah, si tu étais danseuse, ça marchait, mais si c'était dans le théâtre, le théâtre, c'est que des langages. Donc, si tu peux pas bien parler français, c'est la mort. Il y a vraiment cette réflexion assez forte dans certaines relations.
Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir en France alors ?
Au début, je pensais pas de faire de théâtre moi-même. C'est juste, moi, quand j'étais au Théâtre de la Ville pour la première fois lors de mon voyage, j'étais totalement tombée amoureuse du public français.
Ah bon ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'il a le public français ?
Parce qu'ils étaient très, ils ont des responsabilités totales. J'ai jamais vu à quelqu'un qui s'en sortir pendant le spectacle. Mais pour moi, c'était grande responsabilité, des grandes parties du spectacle, plus que ce qui se passe sur le plateau.
Garder l'attention du public français, pour vous, c'est un trésor.
Oui, parce qu'au Japon, il y a beaucoup de gens qui s'endorment pendant le spectacle, mais comme une sorte d'hypocrisie, et qu'après le spectacle, ils dorment tous. Et j'ai vu personne qui part du spectacle pendant parce que ça dérange les gens, ils sont très polis. Mais au fond, on ne sait pas s'ils pensent comment. Et là, j'étais vraiment flattée des manières comment le public français qui se réagit très...
respectueusement.
Ouais.
R comme Racine ou Rabelais.
Kyoko Takenaka.
Racine.
Pourquoi ? Pourquoi Racine ?
Parce que quand je passe le concours de l'école nationale en France, j'ai choisi Andromaque de Racine autant que scène classique. Et tous les profs qui m'ont dit « Ah non, c'est trop audacieux, il faut arrêter, il faut choisir Molière de son vers alexandrin ». Mais moi, je voulais tellement tenter parce que quand j'entends les autres qui lient Alexandrin, c'était tellement beau, c'est comme une sorte de musique. Je ne comprenais rien du sens, mais j'entendais la tragédie de passion, d'amour et tout ça.
Alors, vous allez justement nous dire un extrait d'Andromaque. Je rappelle l'histoire, hein, c'est l'histoire d'Oreste qui aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Comment justement prendre racine ? Je vous le demande, Kyoko.
Tel est de mon amour l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame, et le destin d'Oreste est de venir sans cesse adorer vos attraits et de jurer toujours qu'il n'y viendra jamais. Je sais que vos regards vont rouvrir mes blessures, que tous mes pas vers vous sont autant de par jour. Je le sais, j'en rougis, mais j'atteste les dieux, témoins de la fureur de mes derniers adieux, que j'ai couru partout où ma perte certaine dégageait mes serments et finissait ma peine. Kore ga watashi no koi no imawashi meshi no sugata. Hime mo gozonji no hazu. Oresto no asamashi unmei to wa.
絶え美しいお姿を讃える わかっていればこそ恥ずかしい。だが、
あなたと別れる最後の頃の我が狂乱を見そなわす神々にかけて断言できます。私はどこへでも行った。私の誓いが果たされ、この苦痛を終わらせてくれるような死が確実な場所ならどこへでも。
Kyoko Takenaka dans un extrait d'Andromaque de Racine pour en sol majeur. Votre voix, elle est plus grave hein, en japonais.
Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'il se passe des choses différentes quand vous dites ces vers de Racine en japonais et en français, en vous ?
J'ai l'impression que quand je parle en japonais, je me sens plus terrienne, je me sens plus bas.
Mais je parle sur un plateau ?
En plateau, ça dépend. Là, par exemple, je joue en japonais, mais ma voix, c'est assez aiguë.
Est-ce que la langue française, ça reste quand même comme une sorte de costume pour vous, dans lequel vous vous glissez avec de plus en plus d'aisance, mais
oui.
ça reste un costume ?
Oui, c'est vrai. Là, par exemple, dans votre question, qu'il y a des mots que je ne peux pas raconter avec ma langue maternelle et tout ça. Là, par exemple, quand je mets le costume langue française, je peux vraiment jouer des choses sexuelles.
En français ?
En français.
Parce Mais... que la question en sol majeur, c'est est-ce qu'il y a des mots que vous ne pouvez dire que dans votre langue maternelle ? Apparemment, en japonais, il y a des mots qui concernent la sexualité
oui,
que vous ne pouvez exactement. Dire... que vous ne pouvez dire qu'en japonais, c'est
non,
ça ?
Non, c'était l'inverse.
C'est l'inverse.
En japonais, que j'arrivais pas à dire. Là, par exemple, dans le spectacle de la question de la fée, il y a beaucoup des mots sexuels, comme elle est très provocatrice. Là, par exemple, je peux pas inviter ma mère, même si je jouais au Japon plusieurs fois. Parce que ça me... culturellement, je peux pas m'accepter trop faire sortir le mot sexuel assez fort comme ça. Mais quand je joue en français, même il y a des mots beaucoup des mots sexuels, mais ça me gêne pas du tout. Et quand même, ça me fait plaisir.
Ah oui.
Ouais.
Mais ça reste des mots étrangers finalement, ou pas tant que ça. Ces mots sexuels en français.
Non. C'est pas le mot étranger, mais en tout cas, c'est une sorte de, je peux m'amuser de transgression de ma culture avec la langue française.
Donc il y a une libération pour
oui.
vous quand vous êtes dans la langue française.
Mm-mm.
Une libération, une transformation de vous-même aussi, vous diriez ?
Peut-être. Un peu de dépasser mon éducation japonaise, ma culture japonaise. Oui, c'est vrai.
Et est-ce que vous sentez que vous êtes désormais attachée autant au théâtre japonais qu'au théâtre français ? Ou est-ce que votre destin va se construire, se consolider ici dans le théâtre français ?
Je peux pas dire oui totalement, mais en tout cas je suis beaucoup attachée à la manière de création en France.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que ça m'embêtait beaucoup quand j'étais au Japon. Il y a une sorte de hiérarchie très forte entre les acteurs et le metteur en scène. Le metteur en scène qui prend parfois trop de pouvoir. C'est comme si c'est le chef d'entreprise. Et nous, on est employeurs. Mais là, depuis que je suis en France, je ne vois aucun hiérarchie entre les acteurs.
Pas d'hiérarchie.
Oui, entre le metteur en scène. On est comme une sorte de l'équipe de collaborateurs et on peut dire des choses franchement. C'est plus ancré ensemble, mais le travail est différent.
Tout à l'heure, on évoquait un peu la question du travestissement, qui est importante, je pense, dans le théâtre japonais, ou également la question de l'incarnation. Je ne sais pas si vous croyez en la réincarnation, mais bon, c'est une question qui peut se travailler quand on est comédienne sur un plateau. Est-ce que votre manière de croire en Dieu ou pas, elle inspire votre manière de jouer ?
Là, par exemple, j'ai pas de religion, donc j'ai pas vraiment le Dieu que j'existe religieusement. Mais au Japon, on dit souvent dans la nature, il y a 800 dieux qui existent. Comme on a des rapports avec la nature très très proches, je pense qu'il y a aussi des tremblements de terre et des désastres naturels. Donc je crois les dieux, mais qui existent plus dans l'objet ou dans la nature.
Vous êtes proche de l'animisme.
Oui, je pense.
Est-ce que ça inspire votre manière d'être sur un plateau, ce rapport à la religion ? On fait souvent le lien entre la religion et le théâtre.
Je pense oui. Par exemple, je fais très très attention. D'ailleurs, j'ai découvert d'autres comédiennes japonaises avec qui je joue dans Les Évaporés. En fait, on fait très attention les accessoires et les costumes. Parce que pour nous, c'est comme si il y a le dieu qui existe aussi dans le costume, parce que c'est un objet très important sur le plateau. Et si un juste petit accessoire ou un sac qu'on utilise sur le plateau, pour nous, c'est un objet totalement divin. Et donc, j'ai vu aussi d'autres comédiennes japonaises qui font très attention.
Et alors, c'est quoi votre costume et vos accessoires dans Les Évaporés?
Moi, j'ai une costume, une robe, et aussi j'ai mon sac à dos, et tout ça, simplement. Mais après le spectacle, je mets toujours le même endroit, les chaussures, le même endroit. J'arrange comme ça, parce que c'est un objet très important.
Et il y a un rituel autour de ça ou pas forcément?
Non, pas forcément.
Pas forcément. Ouais.
あなたにとって家に帰るといったときにどこに帰りますか？
Pour vous, rentrer à la maison, c'est où？
Ça reste, je pense que ça reste au Japon.
Vous avez deux maisons en même temps, hein?
Oui, c'est vrai.
Il y a une maison familiale au Japon et puis, comme vous le dites, une maison artistique en France.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand je retourne au Japon, c'est souvent c'est pour voir ma famille. Ça me rassure d'être avec eux et tout ça. Et en même temps, c'est vrai que chaque fois que je retourne en France, je me sens tout de suite animée.
Vivante?
Vivante, ouais. Parce qu'il y a le travail, il y a des amis artistiques.
Et vous travaillez sur vous-même. Le théâtre, c'est travailler sur soi-même, je crois. Vous le disiez, la philosophie, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous lisez beaucoup Gilles Deleuze, par
ouais.
exemple. Vous
mm-hmm.
faites vous-même une psychanalyse.
Oui.
Donc vous êtes vivante de cette manière-là, à travers...
Ouais, peut-être. J'aime bien de l'idée de transformation et que... C'est pas qu'on décide une identité très très fort. Moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de comme ça, comme ça. C'est plus toujours métamorphosé. Je métamorphose tout de suite quand je suis au Japon. Et même ma manière de parler, ça change. Ma voix, ça change. Mon corps change. Et c'est un peu ça, je pense que c'est selon le pays et de la culture. En transformant, je pense que je voyage. Ouais.
Alors, en rappelant que jusqu'au 23 juin, on peut vous découvrir dans Les Évaporés, donc sur un texte et une mise en scène de Delphine Equet, c'est au Théâtre de la Tempête à Paris. On va se dire sayonara, Kyoko, avec une belle chanteuse malienne. Parce que peut-être que votre manière de vous transformer, de vous déplacer du Japon vers l'Europe, vous a ouvert d'autres horizons sur l'Afrique.
D'accord.
Vous dites d'accord. Pourquoi est-ce que vous aimez la chanteuse Fatoumata Diawara?
Ah oui, parce que j'ai vu un documentaire sur Arte et qu'en fait cette chanson...
C'est une chaîne culturelle franco-allemande.
Cette chanson qui parle de, comment on dit, en Afrique, il y a aussi encore des cultures qui coupent les sexes féminines.
Mm-hmm. L'excision, oui.
Oui, c'est ça. Et donc cette chanson qui est contre l'excision, il faut... On arrête cette chose pour être libre autant que les femmes. Et j'étais totalement flappée, cette chanson.
Et vous seriez prête à vous transformer jusqu'à essayer l'Afrique un jour?
Oui, Ça m'intéresse beaucoup.
Ouais. Ah oui? Vraiment.
Parce que je suis jamais allée.
Fatoumata Diawara sur RFI. Et pour en sol majeur c'est tellement bon en podcast sur notre application Pure Radio, mais c'est encore mieux derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, c'est tellement bien qu'on se retrouve demain avec le rappeur guinéen Ousmane Doumbouya. À demain. RFI.